Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture. Urbanisme. Cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler politique. En fait, la politique liée au sujet de notre émission, qui est bien sûr l'architecture. Donc, Jean-Luc Mélenchon, l'homme politique bien connu de nous tous, a fait une déclaration tonitruante à son habitude, puisque, comme chacun le sait et l'écoute, c'est un grand tribun. Donc, sa déclaration était certainement adressée à sa clientèle, mais je veux dire, on ne peut pas l'accuser de cela. Je crois que c'est le propre de tous les hommes politiques et c'est, on peut dire, les lois de la démocratie. Mais là, c'est assez particulier parce que il parle de l'architecture gothique. Alors vous me direz, l'architecture gothique, alors je ne sais pas si vous avez entendu sa déclaration, mais elle est assez surprenante. En effet, alors, encore une fois, pour parler à son électorat, on peut dire oriental, il attribue d'une manière véhémente l'architecture gothique à un progrès venu de l'Orient. Donc l'architecture gothique et en tout cas ça on peut dire sa particularité essentielle, celle qui est transmise le plus souvent, c'est l'arc brisé. Donc il dit que elle n'est pas gothique et elle est musulmane et donc ce serait à travers les pays musulmans et la Méditerranée, que ce serait monté jusqu'au nord. Et il dit, les gothiques n'ont fait que briser les arcs. Évidemment, on comprend les arcs et les flèches. Donc, il joue à une sorte de primitif, puisque c'est à la mode, du côté des peuples du nord et les peuples de la Méditerranée, qui seraient les porteurs de la civilisation. Alors, la question est assez subtile sur le, on peut dire, sur la civilisation. Alors la civilisation, évidemment, de la Méditerranée est plus ancienne que celle de l'islam, que l'on sait être évidemment le monothéisme, le dernier monothéisme, et donc il y a tout l'héritage qui vient de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce et évidemment de Rome. Et le gothique est une sorte de négation de cet héritage-là. Alors, la part musulmane, est, on peut dire, n'est pas à ignorer, bien sûr. L'architecture, d'ailleurs, pourquoi on l'appelle l'architecture islamique ? On pourrait l'appeler l'architecture de l'Orient, mais enfin, bon, est une architecture où il y a des exemples tout à fait remarquables. Alors, sans parler de d'Ispahan, on peut parler de ce qui a été le patrimoine andalou avec les extraordinaires bâtiments que sont la mosquée de Cordoue et l'Alhambra, qui sont effectivement une sorte de synthèse entre le cloître chrétien et puis la finesse des ornements, enfin, et aussi une sensualité qui est propre aux civilisations méditerranéennes. Bien, mais ce n'est pas là le débat. Le débat, il est sur le progrès qui serait donc venu du Sud et contre une sorte d'incapacité du Nord. Alors, sur un plan historique pur, évidemment, c'est une invention totale. L'histoire de l'arc brisé, puisque c'est ce qui nous intéresse ici à développer, est en fait un faux débat, mais qui est tellement passé, on peut dire, dans le débat d'aujourd'hui, dans la connaissance à travers les films, à travers les visuels que l'on peut voir, et aussi à travers, on peut dire, l'école, et aussi l'école savante, l'université, et la manière dont les historiens décrivent le passage du roman au gothique s'est présenté comme un passage, on peut dire, de l'ombre à la lumière, d'une sorte de construction primitive à une construction complexe, raffinée, et s'est présenté comme un grand progrès. Donc, à la suite de la déclaration de Mélenchon, il y a eu des contestations sur ses origines, mais tout le monde était d'accord sur l'immense progrès civilisationnel que le gothique avait introduit. Et ce sera la thématique de l'émission d'aujourd'hui, que je développerai dans la seconde partie, la question du progrès en architecture, mais d'une manière plus générale, la notion de progrès en art, puisque c'est de cela dont il s'agit. Donc, revenons à ce passage du roman au gothique. Alors, le roman est considéré dans le récit, on peut dire, officiel des historiens les constructions romandes sont considérées comme des constructions sombres, avec cette voûte qui est en plein cintre, c'est-à-dire demi-circulaire. Et à l'opposé, on a le gothique qui est transparent, qui est léger, en fait, qui est moderne, dans la notion de modernité qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il du rapport de l'architecture avec la hauteur, avec aussi la transparence? Il y a toute une série de questions qui apparaissent, non pas effectivement comme des questions, mais comme des vérités. C'est-à-dire que le progrès serait de passer d'un bâtiment qui soit opaque à un bâtiment qui soit transparent. Et le progrès technique, qui est attribué d'une manière qui me semble assez fausse à l'architecture gothique et à l'arc brisé, est considéré comme quelque chose d'absolument génial, une nouveauté, une fracture civilisationnelle. Enfin, les termes sont toujours dithyrambiques. Alors, je voudrais rappeler que le problème de la voûte comme de la toiture, c'est de protéger le bâtiment. Ça tombe sous le sens, c'est-à-dire c'est le toit et la voûte, c'est un élément construit en pierre qui empêche faire flamber, qui empêche l'incendie de la charpente. Alors, évidemment, si l'incendie de la charpente est comme à Notre-Dame est dû à une négligence de mégot ou d'un court-circuit qui fait flamber la charpente. Dans le cas de Notre-Dame, on a vu que la voûte a protégé le bâtiment. Mais dans les temps anciens, c'était surtout le danger qui était inverse, puisque on n'avait pas d'éclairage électrique. Et l'éclairage électrique peut mettre le feu, mais d'une manière assez rare. Tandis que quand on avait évidemment des tentures et des bougies et des éclairages avec avec des torches et autres supports, on peut dire, qui avaient des flammes, avaient tout type de lanternes, etc. On avait beaucoup plus de dangers avec les incendies. Et donc, le but des voûtes, c'est celui-là. Mais là où je voudrais en venir, c'est ce rapport entre la transparence et la technique. Par exemple, le temple grec, mais qui va être, par exemple, prolongé par un bâtiment comme la Madeleine, mais qui est aussi le prototype de beaucoup de bâtiments néoclassiques, même jusqu'à une époque qui est assez récente, ce qui est le cas de l'église de la Madeleine à Paris. On a une colonnade qui supporte la toiture, la charpente et la toiture, et sur lesquelles il y a le plafond, et il y a une sorte de boîte à l'intérieur de la colonnade, et cette boîte est relativement fermée, comme dans le cas du Parthénon et de tous les temples sur ce type qui ont diffusé dans la Rome, dans la Grèce et dans la Rome antique. Cette boîte à l'intérieur du Parthénon, en fait, ne supporte aucun poids et pourrait être évidée, mais si elle ne l'est pas, elle l'est pas pour des raisons structurelles, elle est pour des raisons, on peut dire, d'utilitaire, c'est-à-dire que le temple voulait être un lieu de secret et un lieu où des objets sont protégés, et comme il en est aussi d'une bibliothèque. Et dans le cas d'un lieu de culte, il y avait des objets à protéger, donc le bâtiment était très peu ouvert. Donc la question que l'on se posait, c'est pourquoi ouvre-t-on tellement la cathédrale gothique qui du fait des immenses vitraux, on peut y pénétrer en cassant les vitraux, et on a quelque chose qui est extrêmement fragile à conserver et aussi à fracturer et à pénétrer. Donc la question essentielle, c'est l'utilitaire, et l'architecture n'est pas dans une course au progrès. Donc on va marquer une pause musicale et on va reprendre sur ce problème du progrès dans l'architecture. Alors nous reparlons du gothique. Alors tout le monde connaît ce schéma qui est expliqué, comme je disais, à la fois dans les écoles et d'une manière aussi savante dans les émissions artistiques. On l'a vu d'autant plus développé avec l'incendie de Notre-Dame qui avait reboosté l'architecture gothique, et l'architecture gothique étant présentée comme un summum de l'art occidental. Alors, bon, c'est un goût personnel, mais je ne partage pas tout à fait cet enthousiasme. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est cette explication qui est donnée avec un sérieux par des gens qui sont évidemment des grands spécialistes de l'architecture, de la structure, de dire que le progrès avec les arcs-boutants qui sont une invention extraordinaire parce que ça arrive à contrebouter la voûte et ça permet de monter plus haut. Bon, alors la première question dont je parlais tout à l'heure, c'est d'ailleurs autant il est pourquoi évider le plus possible les murs, et puis aussi la deuxième question, aussi pourquoi monter plus haut. C'est pas forcément ce qui garantit la qualité et surtout l'utilité du bâtiment. Donc cette course à la hauteur est à mon sens assez naïve et puérile, mais surtout c'est l'explication qui est donnée des arcs-boutants. Sur tout le monde trouve ça, c'est un progrès incroyable. Tout le monde sait ce que sont les arcs-boutants. Ils viennent donc entre guillemets empêcher les murs de s'effondrer, et ils arrivent à contrebalancer les effets et le poids de la voûte. Alors, sur un plan technique, les choses ne sont pas aussi simples. D'une part, parce que la voûte gothique, qui est à l'art brisé, est formée de panneaux avec des nervures. Et c'est vrai que les nervures réparties sur les piliers. Mais pour faire un peu de technique, on peut dire, pour équilibrer le poids de la voûte, qui n'est pas aussi important que l'on imagine. La voûte gothique est une voûte mince qui fait 15 à 20 cm d'épaisseur, dont le poids n'est pas tellement considérable. Et par exemple, on a un exemple en France tout à fait étonnant, qui est la Sainte-Chapelle à Paris, qui est un bâtiment gothique, là entièrement vitré sur les côtés latéraux, et qui n'a pas d'arc-boutant. Et la hauteur, je crois que c'est 30 mètres, c'est assez considérable par rapport aux 35 mètres de Notre-Dame, et on a un bâtiment qui est, on peut dire, modeste dans son architecture, puisqu'elle est relativement lisse. Alors, on voit sur ces émissions documentaires qui sont tout à fait intéressantes, par ailleurs à la télévision, on voit l'explication qui est donnée aujourd'hui, c'est qu'il y a des ceintures qui sont métalliques. Alors, c'est tout à fait vrai. Et ces ceintures sont considérées par ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle le chaînage, c'est-à-dire que le mot vient de la chaîne, et effectivement, on a à cette époque-là une chaîne au sens littéral du mot, c'est-à-dire qu'on a des éléments métalliques qui s'emboîtent comme les maillons d'une chaîne et qui forment la ceinture du bâtiment. Alors, ceci a un rôle, évidemment, qui n'est quand même pas comme un chaînage en béton, qui lui est rigide. C'est un élément souple qui a surtout, je pense, le but de tenir les vitraux et d'empêcher qu'il y ait des on peut dire des dilatations suffisamment importantes pour que les mouvements ne fassent pas casser les vitraux. Ça me semble surtout ce qui est essentiel. Alors là où je voulais en venir, c'est que l'arc-boutant est... Alors je n'irai pas pour dire que c'est une fantaisie, mais disons que c'est quand même quelque chose qui est extravagant. Parce que les arcs-boutants par rapport à la... au rôle qui leur est assigné de contrebalancer la voûte sont évidemment gigantesques et il n'y a pas de rapport entre la dimension de l'arc-boutan et les forces qu'ils sont supposés maintenir. Mais cela crée un effet plastique considérable. Et puis, l'architecture, comme la mode, ça fonctionne par le résultat. Et ce résultat, qui a été innovant les premières fois, il a été copié. On est arrivé à faire un style. Et la caractéristique de ces bâtiments qui étaient les cathédrales gothiques, elles étaient évidemment tout à fait extraordinaires par ces sortes de pattes d'araignées extérieures qui d'abord remplissaient dans l'espace d'une manière, on peut dire, double et triple même, et d'un effet visuel tout à fait considérable. Donc, je sais que je vais à l'envers de l'explication technique générale, mais je pense que, pour une grande part, les arc-boutants sont des éléments décoratifs, et ce mot n'est pas péjoratif, parce que l'architecture, elle est aussi son rôle, et aussi grandement visuel. Alors, évidemment, par rapport à la Sainte-Chapelle, où on a simplement des raidisseurs, c'est-à-dire le raidisseur, c'est un morceau de mur qui est perpendiculaire à la façade et qui raidit le bâtiment. Alors, nous sommes à Toulouse, et on pourrait rappeler que le gothique toulousain, qui est celui des Jacobins, eh bien, on a des montants verticaux en briques, et il y a un couronnement qui est fait avec une sorte de ceinture de briques avec des arcades en partie haute qui ceinturent le haut du bâtiment, mais qu'il n'y a pas d'arc-boutan aux Jacobins. Et pourtant, comme vous le savez, il y a une hauteur importante avec cette singularité qui est tout à fait curieuse, c'est les colonnes centrales et le fameux palmier. Donc, on a aussi Albi, qui est une cathédrale considérable en volume et en hauteur. Et là aussi, on a une cathédrale qui est lumineuse à l'intérieur, et on a des contreforts qui sont réalisés par des éléments massifs demi-circulaires qui n'ont pas nécessité d'avoir ces grands éléments extérieurs. Alors, pour conclure cela, on peut dire que c'est une question de durabilité dans le temps, et c'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'architecture. Dans le cas de l'architecture gothique, qui est une architecture spectacle, qui demande un entretien important, qui est d'une fragilité aussi réelle, mais il faut dire que les époques ont pu entretenir ces cathédrales fragiles, mais dans le cas qui est celui des cathédrales, on est dans une modernité de performance et d'effet. Dans le cas de la latinité et de la tradition, on peut dire, du Sud, et pour reprendre l'exemple de l'Alhambra, qui est une des émanations de ces cultures, on a un bâtiment qui est un bâtiment sévère en pierre, et un intérieur qui est un intérieur fragile et qui est arrivé jusqu'à nos jours. Alors, c'est le cas de tous les bâtiments, le Panthéon à Rome par exemple, avec des bâtiments qui sont solides, qui sont faits pour traverser le temps, qui demande aussi très peu d'entretien, et c'est un élément qui devrait être pris en compte aujourd'hui dans les bâtiments publics que l'on fait. Quel est le quel est le coût d'entretien dans les prochaines années et quel est le coût d'entretien dans une durée encore plus longue. Donc, on a deux attitudes, soit faire un effet visuel remarquable et immédiat, et on a une autre attitude, c'est celle de faire des bâtiments qui ont comme but et comme ambition de durer le plus de temps possible avec le moindre frais. Alors, évidemment, ça la recoupe cette notion de progrès, où mettons le progrès, comme vous venez de voir de mon explication, c'est un choix, on peut dire, c'est un choix moral, c'est un choix politique, mais on n'est pas du tout dans un progrès qui est le progrès scientifique. Alors la science, elle fonctionne d'une manière cumulative. C'est-à-dire que en médecine, en physique, il y avait des choses que l'on savait d'une manière souvent fausse et ou alors vérifiées, mais sans les applications que le développement de la science qui se cumule et qui, dans tous les domaines, aussi les échanges qu'il peut y avoir entre les différentes disciplines, la chimie avec la physique et les applications pratiques que l'on peut avoir dans la médecine et puis aussi dans tout le progrès technique de toutes les machines qui ont commencé au 19e siècle et qui sont, on peut dire, le quotidien de chacun, avec notamment les appareils transportables d'aujourd'hui. Donc nous sommes totalement envahis par, on peut le prendre aussi dans le bon sens du terme, parce que nous sommes dépendants et toutes ces machines nous aident dans la vie d'aujourd'hui, mais l'erreur serait de croire que le progrès humain est toujours un cumulatif et canard, il y aurait la même courbe de progression. En fait, autant la science et la technique est cumulative, mais dans le cas de la dimension artistique qui va être en littérature, qui va être en architecture, qui va être en musique et en peinture et en sculpture, eh bien, même si elles peuvent utiliser les progrès techniques, et en architecture, c'est manifeste, mais est-ce que le progrès technique améliore et fait que les bâtiments d'aujourd'hui sont supérieurs aux bâtiments anciens? Évidemment, je ne le pense pas, mais pas plus que le gothique n'était supérieur au roman. Et on peut tout à fait prétendre, ce qui est mon cas, le contraire. Et là, ce sont des avis et ce ne sont pas des certitudes comme, par exemple, la circulation du sang, quand on croyait qu'il y avait des humeurs et qu'on a vu que tout cela, depuis Hippocrate, était une bêtise et qu'en fait, le sang circulait et que les humeurs n'existaient pas. Donc là, on a un progrès et il ne s'agit pas de dire « Ah oui, mais peut-être que Hippocrate avait raison ». Non, on a des preuves scientifiques de cette réalité. En art, nous sommes toujours dans des diversités et dans des cycles suivant les civilisations qui correspondent à des vases communicants entre les différentes disciplines artistiques. Les mots de l'expression peuvent varier, être cubiste qui va retrouver les formes de civilisations plus anciennes ou avec des formes d'organisation différentes. Donc il y a une grande diversité qui fait justement l'intérêt du monde artistique, mais le monde artistique ne dépend pas du progrès. Et ça, pour revenir au début de notre émission, c'est pas la peine de faire une course entre les civilisations sur le progrès. Les civilisations ont des réalisations dans différents domaines artistiques remarquables. mais en faire une sorte de combat politique pour attribuer aux uns et aux autres les bons points et les prix Nobel de science est assez dérisoire, ridicule et surtout complètement faux. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie Sacha qui est toujours à la technique et je vous dis à la semaine prochaine.